Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
We will make America great again.
Rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est l'objectif de Donald Trump depuis son arrivée à la Maison Blanche. Et dans son viseur, il y a le déficit commercial colossal de son pays avec la Chine.
C'était un des marqueurs forts de sa mandature, rappelé ici par France 24. En 4 ans passés à la Maison Blanche, Donald Trump a laissé une trace forte, mais pas indélébile, sur le commerce mondial, à travers notamment une guerre commerciale et technologique avec la Chine, ou la remise en cause de traités internationaux au profit de relations bilatérales. Ce qu'un homme a défait, une femme va devoir le refaire, ou du moins le tenter. Elle s'appelle Ngozi Okonjo-Iweala et elle va prendre les rênes de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et aujourd'hui on va s'intéresser à la femme qui va devoir revitaliser le commerce mondial.
Une démission précoce et inattendue. Alors que l'économie mondiale traverse sa crise la plus grave depuis les années 30, le directeur général de l'OMC annonce quitter ses fonctions en août. Roberto Azevedo était à la tête de l'organisation depuis 7 ans.
L'OMC est en crise. La démission de son directeur général en août dernier en a été le révélateur. Même s'il explique qu'il s'agit d'une décision personnelle, une décision familiale, il se dit aussi convaincu que cette décision sert au mieux les intérêts de cette organisation. Depuis des mois, le Brésilien successeur du Français Pascal Lamy était dans le collimateur du président américain Donald Trump en guerre commerciale contre la Chine. Un an plus tôt, la commissaire européenne Cecilia Malmström avait reconnu que l'organisation se trouvait dans une crise profonde, soulignant les risques de paralysie du système juridique de l'OMC en raison de l'opposition des États-Unis pour le remplacement des juges chargés de régler les disputes commerciales entre pays. La tâche s'annonce donc complexe pour sa nouvelle directrice générale, Ngozi Okonjo-Iweala, l'une des candidates au remplacement du Brésilien Azevedo. Bonjour Richard Rio.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes grand reporter au service international des Échos. C'est vrai, l'OMC est en crise ?
Elle est en crise, effectivement, depuis de nombreux mois. L'OMC est l'otage des égoïsmes nationaux. On accuse régulièrement les États-Unis, mais ce sont loin d'être les seuls à blâmer. Il est vrai qu'avec l'attitude bien moins conciliante de Donald Trump pendant son mandat de 4 ans à la tête des États-Unis, on a plus parlé de l'attitude des États-Unis que des autres. Mais il faut savoir qu'il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et les relations entre les États-Unis et l'Europe ne sont pas au top niveau non plus. Donc les États-Unis, ils sont célèbres, si je peux m'exprimer ainsi, en raison de leur opposition systématique au remplacement des juges qui sont chargés de régler à l'OMC les conflits commerciaux. Donc c'est tout un pan du fonctionnement de l'OMC qui ne fonctionne plus. Mais encore une fois, les Américains ne sont pas les seuls troubles faits à l'Organisation mondiale du commerce.
1er janvier 1995, le GATT, c'est fini, ce jour-là, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce s'efface devant la nouvelle Organisation mondiale du commerce.
L'OMC n'a que 25 ans, comme on peut l'entendre dans ce reportage de la RTS, c'est jeune. On peut parler d'une crise d'adolescence, mais l'OMC a aussi failli dans la gestion des conséquences de la crise sanitaire ?
En fait, l'OMC n'a pu que constater les dégâts des politiques commerciales de ses pays membres, dont certains ont pris des mesures plutôt restrictives pour empêcher par exemple l'exportation de matériel médical ou de vaccins. Et comme son système d'arbitrage est sérieusement englué, il n'est guère possible de faire plus. Elle observe ce qui se passe.
Avant de présenter Ngozi Okonjo-Iweala dans quelques minutes et de voir pourquoi est-ce qu'elle a été choisie, je voudrais, Richard, que vous nous expliquiez en quoi ce poste de directeur général de l'OMC est important.
C'est avant tout un poste de diplomate. Le directeur général de l'OMC, ça sert à mettre de l'huile dans les rouages, à favoriser l'émergence d'un consensus sur quelque sujet commercial que ce soit. Il y a beaucoup de négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce sur tout un tas de sujets. Le directeur général n'a pas de pouvoir en tant que tel, mais c'est un facilitateur de dialogue. On l'a vu lors du dernier Conseil général de l'OMC, en décembre dernier, il n'y avait pas de directeur général pour jouer ce rôle de monsieur loyal, de conciliateur, et ça n'a pas permis la moindre avancée sur tous les sujets qui étaient sur la table, que ce soit la régulation des subventions publiques, que ce soit la régulation du commerce électronique ou le respect de la propriété intellectuelle, etc. etc.
La concurrence était vive pour ce poste ?
Il faut savoir que le poste de directeur général de l'OMC, c'est un poste prestigieux. On se souvient qu'il a été occupé pendant 8 ans, entre 2005 et 2013, par un ancien commissaire européen au commerce, en l'occurrence le français Pascal Lamy. Mais pour cette fois, quand il a fallu remplacer le Brésilien Roberto Azevedo, qui est parti un an avant la fin de son mandat, il n'y a eu que 8 candidats, peu connus au demeurant, qui venaient de différents pays du globe et qui se sont affrontés qu'à ce que 2 femmes soient en finale pour occuper ce poste. Les 2 femmes qui étaient sélectionnées dans cette finale, c'est la ministre du Commerce de Corée du Sud et l'ex-numéro de la Banque mondiale et ex-ministre des Finances du Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala.
Et la ministre sud-coréenne qui était soutenue d'ailleurs par l'administration Trump.
Tout à fait, parce que l'administration Trump considérait Ngozi Okonjo-Iweala pas qualifiée pour le job. Elle n'a jamais été ministre du commerce. Donc pour les États-Unis, c'était une personnalité qui n'était pas idoine pour occuper ce poste.
Bien qu'elle dispose d'importantes matières premières, l'Afrique reste marginale dans les échanges internationaux avec une contribution de moins de 3%. Le cours régional de politique commerciale initié par l'Organisation mondiale du commerce, OMC, à l'attention des pays africains anglophones et francophones, devrait augmenter le taux des échanges.
On a entendu ici ce reportage de RTI, une radio ivoirienne. En 2019, 16 pays africains se sont réunis pour réfléchir aux nouveaux défis de l'OMC. Richard, très vite, il est apparu naturel que le poste de directeur général de l'OMC revienne à l'Afrique ?
Si vous voulez, au regard des antagonismes actuels, il n'était guère envisageable de nommer un Européen, un Américain ou un Chinois, mais plutôt une personnalité plus neutre. La nomination de la Nigériane, Ngozi Okonjo-Iweala, est historique à 2 titres. La première chose, c'est que cette organisation internationale sera dirigée pour la première fois par une femme. Ça n'a jamais été le cas par le passé. Et c'est la première fois qu'une personne venant d'Afrique dirigera une organisation internationale. Donc c'est tout un symbole qu'il faut voir à la nomination de Madame Ngozi. C'est symbolique de l'état d'esprit ambiant où les pays riches se voyaient régulièrement accusés de truster des postes internationaux. Donc là, ils font preuve d'une ouverture et je pense que ça va être largement commenté dans les médias.
Qui choisit justement ce directeur ?
Alors c'est un processus qui est assez complexe. Ce sont tous les pays membres de l'OMC qui votent un pays à une voix. Donc ils sont 164 pays et il faut que le directeur général soit nommé à l'unanimité. On l'a bien vu lors de la finale entre la Coréenne et la Nigériane. Il a suffi qu'un seul pays, en l'occurrence les États-Unis, Donald Trump, s'oppose à la nomination de Madame Ngozi, ça a bloqué tout le processus. Donc il a fallu que Donald Trump perde lors des élections présidentielles américaines et l'élection de Joe Biden, qui s'est montré un peu plus ouvert, pour se rallier à l'ensemble des 163 pays, en l'occurrence, pour arriver à nommer le prochain directeur général. Et c'est fait depuis hier, a priori.
La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala deviendra la première femme directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce.
On l'a entendu dans ce reportage d'Africa News, il n'y avait plus vraiment de suspense depuis quelques jours. Ngozi Okonjo-Iweala devient directrice générale de l'OMC, mais Richard, qui est-elle ?
C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme de caractère. Dans son pays où elle a opéré des réformes pour redresser l'économie, en tant que ministre des Finances, elle a été ministre des Finances à 2 reprises, elle a été affublée d'un sobriquet, on l'appelait l'emmerdeuse. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui ne cède pas, qui sait ce qu'elle doit faire. Et au Nigeria, comme dans de nombreux pays, c'est une véritable star. Pour résumer son parcours, il faut savoir qu'elle est diplômée de l'université prestigieuse aux États-Unis, Harvard et le MIT. Elle a été à 2 reprises ministre des Finances, et elle a été numéro 2 de la Banque mondiale lorsque Robert Zoellick, qui était le président d'alors, l'avait appelée pour être sa directrice générale.
On voit donc que c'est une femme d'expérience. Hein.
C'est une femme d'expérience qui a beaucoup de relations au niveau international. Elle est très connue. Hein. D'ailleurs, vous ne pouvez pas la rater. Elle a toujours des tenues très colorées, des tenues traditionnelles de son pays. Donc, dans une réunion internationale, vous la repérez tout de suite. Enfin, elle est plus visible, plus repérable que l'ancien directeur général, Roberto Azevedo, qui était un peu plus terne.
Et c'est vrai qu'elle imprime, comme on dit, Ngozi Okonjo-Iweala. Elle est la fille de chef traditionnel au Nigeria, avec rang royal chez les Igbo, une ethnie du sud-est du pays, peut-on lire sur sa bio Wikipédia. Elle a 66 ans, et on raconte que lors de la guerre du Biafra en 1969, elle a porté sa petite sœur, victime d'une crise de malaria, jusqu'à une clinique située à 10 km de là. Elle sera sauvée, de quoi construire sa légende. Elle est mariée à un médecin nigérian neurochirurgien. Ils ont 4 enfants ensemble, mais vous le disiez, elle dispose surtout d'un CV impressionnant. Élue à l'Académie américaine des arts et des sciences, et elle a été citée parmi les 100 femmes les plus puissantes du monde par le magazine Forbes pendant 4 années d'affilée. Et elle est souvent présentée comme une femme modeste et une boulimique de travail. Elle est aussi la présidente du conseil d'administration du Gavi, l'Alliance internationale pour le développement des vaccins. Dans un contexte de pandémie mondiale, ce poste a pu aussi jouer favorablement dans sa candidature à l'OMC. Enfin, elle est aussi membre du conseil d'administration de Twitter.
Alors que les institutions de Bretton Woods avaient prédit un taux de croissance économique de 2% pour 2019, le pays le plus peuplé d'Afrique s'est distingué par une croissance à 2,7%, soit 476 milliards de dollars face à l'Afrique du Sud, qui s'est contentée d'1,4%, soit 352 milliards de dollars. Une performance économique qui permet désormais au pays de Muhammadu Buhari d'être le porte-flambeau de l'économie africaine.
On va faire une petite digression à l'écoute d'Africa News. Richard, que représente le Nigeria dans le commerce mondial ?
Alors, le Nigeria, c'est pas la première puissance économique ni la première puissance commerciale du monde. Hein. Son commerce ne pèse que 0,5% des flux commerciaux mondiaux. Mais il faut savoir que le Nigeria, c'est quand même la première puissance économique du continent africain. Elle est devant l'Afrique du Sud. Hein. Le PIB est environ de 500 milliards de dollars. Et le commerce avec le Nigeria représente 30% de ce PIB. Alors le pays, qu'est-ce qu'il exporte ? Il exporte surtout du pétrole.
One of the things that we are missing is diversification of our economies, which are very dependent on commodity exploitation and export. So the key issue is how does the continent undertake that type of structural transformation that will help us create industries. Manufacturing jobs that are good for our young people.
Il y a un peu moins d'un an, elle était interrogée par la chaîne Africa 24 en qualité d'ancienne ministre des Finances. Elle évoquait notamment les défis de la transformation de l'Afrique. Elle a été d'ailleurs la première femme à occuper ce poste dans son pays. Et quel a été son bilan au sein du gouvernement nigérien au début des années 2000 ?
Elle a fait beaucoup de choses. C'est vrai qu'elle a été ministre des Finances pour la première fois entre 2003 et 2006. En 3 ans, elle a privatisé des entreprises industrielles publiques. Elle a favorisé la concurrence dans les télécommunications. Elle a surtout lutté contre la corruption en demandant notamment la publication des recettes de l'industrie pétrolière pour s'assurer que l'argent du pétrole aille dans les écoles et les hôpitaux plutôt que dans les poches de quelques-uns. Elle a lancé des procédures de révocation sur des ministres, des juges, des militaires, des gouverneurs et le chef de la police nationale aussi. Elle a aussi, et ça c'est un fait dont elle peut s'enorgueillir, elle a aussi réussi à renégocier la dette publique de son pays et elle a effacé les 3/4 de la dette du Nigeria que le pays devait à des créanciers étrangers. Hein. Elle a réussi aussi le tour de force à faire reculer l'inflation, hein, qui est passée sous son mandat de 23% à 11%, c'est quand même pas mal. Elle a multiplié le produit intérieur brut de son pays par presque 3. Elle a réussi aussi à faire reconnaître son pays sur la scène internationale, puisqu'elle a obtenu la première notation souveraine de crédit de son pays par les agences internationales que sont Fitch et Standard & Poor's. Dans un deuxième temps, elle a été de nouveau ministre des Finances dans les années 2010, 2013-2014. Et là, elle a mis au point, avec l'aide de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, un système biométrique de gestion des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on savait qui était fonctionnaire et pour quelle raison. Ça lui a permis de virer, entre-temps, quelques 60 000 fonctionnaires qui étaient payés illégalement. Elle a aussi mis fin aux subventions des prix de l'essence dans son pays, ce qui n'a pas été sans mal et ce qui lui a valu des sœurs froides puisque sa maman, à l'époque, a été enlevée puisque les ravisseurs demandaient à ce que cette réforme sur les prix de l'essence soit enlevée. Mais elle n'a pas cédé.
On comprend mieux pourquoi certains l'ont appelée Okonjo-Iweala, ce qui, en langue yoruba, l'une des principales ethnies du pays, peut se traduire par l'emmerdeuse. Elle a aussi été classée en 2019 parmi les 8 femmes combattantes anti-corruption par Transparency International, des femmes inspirantes, selon l'ONG. Richard, vous le disiez, ses opposants au département américain du commerce ont fait remarquer qu'elle n'a jamais été ministre du commerce dans son pays. L'OMC doit être dirigée par une personne ayant une expérience réelle et pratique du terrain, disait-il. Pourtant, elle fait l'unanimité autour d'elle.
C'est vrai qu'elle n'a jamais été ministre du commerce. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça peut constituer un handicap. Mais certains, comme aux États-Unis d'ailleurs, n'ont pas manqué de le faire remarquer. Mais pour autant, ce n'est pas forcément un gage du succès. Quand on regarde l'expérience des précédents directeurs généraux, il faut savoir que l'OMC n'a pas tellement délivré des accords commerciaux de grande ampleur sous la présidence du Brésilien Azevedo ou du Français Pascal Lamy. Donc, je dirais que l'expérience du directeur général est plus du ressort de la diplomatie, comme je le disais, plutôt que d'être un technicien. L'OMC, elle a besoin aujourd'hui d'un diplomate, pas forcément de quelqu'un qui a les qualités techniques d'un ministre du commerce.
D'une femme à une femme, on pourrait parler de Christine Lagarde, la patronne de la BCE, ancienne patronne du FMI. Elle lui a rendu déjà hommage ?
Elle lui a rendu hommage, elle la connaît bien d'ailleurs, puisque Mme Ngozi, comme je le disais, a été numéro 2 de la Banque mondiale. À l'époque, Christine Lagarde était directrice générale du FMI. Donc dans les couloirs du FMI et de la Banque mondiale, les deux bâtiments ne sont pas très éloignés. Elle a eu souvent l'occasion de la côtoyer. Et dans une récente interview, Christine Lagarde l'a qualifiée de femme merveilleuse, de femme douce, de femme très gentille, avec une approche authentique des problèmes. Mais elle a dit, attention les gars, sous son grand velours, il y a une main de fer, une forte volonté. C'est pas la seule à avoir dressé des lauriers à Madame Ngozi. L'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown loue ses qualités de réformatrice. Et il y a même le chanteur Bono, le chanteur du groupe de rock U2, qui a fondé une organisation non gouvernementale qui s'appelle One. Il était jusqu'à dire qu'il serait fier de travailler pour elle. D'autres voix en Afrique sont moins connus, moins célèbres, son tournant, n'ont pas manqué d'égratigner Mme Ngozi pour sa gestion des affaires nigérianes. On citait notamment quelques cas de corruption qui étaient toujours en vigueur sous son règne de ministre des Finances. Mais bon.
Christine Lagarde à la BCE, Ursula von der Leyen à la Commission européenne, Ngozi Okonjo-Iweala à l'OMC, Sylvia Fernandez de Gourmandi, ex-présidente de la Cour pénale internationale, Audrey Azoulay à l'UNESCO, Michel Bachelet au commissaire pour les droits de l'homme. Quelques exemples parmi d'autres de postes de dirigeants des organisations internationales dirigées aujourd'hui par des femmes. Ça veut dire que ces organisations sont de moins en moins des chasses gardées pour les hommes ?
Vous avez raison, Pierrick. J'ajouterais à cette liste Kristalina Georgieva, qui a été élue directrice générale du Fonds monétaire international, pour prendre la succession de Christine Lagarde. On ne peut que s'en féliciter. Le monde change dans le bon sens et c'est tant mieux. Si les femmes ne sont pas plus incompétentes que les hommes, si je peux m'exprimer ainsi, et elles font du très bon travail.
Dans un entretien au Washington Post, Ngozi Okonjo-Iweala raconte avoir fait sienne une phrase de son père, mathématicien et diplomate. « Si tu rencontres un problème parce que tu es une femme, que tu es noire et que tu es africaine, prends ce problème, cette faiblesse qu'ils ont, et fais-en ta force. Ne t'arrête pas.
Thank you very much, Chris. Everybody who came up here said they were scared. I don't know if I'm scared, but this is my first time of addressing an audience like this, and I don't have any smart technology for you to look at. There are no slides, so you'll just have to be content with me.
En 2007, on entend Ngozi Okonjo-Iweala s'exprimer lors d'une conférence organisée par la fondation américaine TED à Monterey, en Californie. Alors, elle n'a pas de slide et ils vont devoir se contenter d'elle, dit-elle en riant, avant de parler d'une Afrique dont on ne parle pas assez, celle des réformes, de la croissance et des opportunités commerciales, plutôt que l'Afrique de la famine, des maladies, de la corruption et des conflits. Elle va parler pendant une vingtaine de minutes devant un parterre conquis, notamment lorsqu'elle raconte l'histoire de femmes qui ont réussi dans le commerce en Afrique, comme cette marchande de fleurs Béatrice Gakouba du Rwanda, qui exporte même vers les Pays-Bas et qui emploie 200 personnes, mais qui manque de capitaux pour se développer.
I could go on giving examples. Beatrice Gakouba of Rwanda, who opened up a flower business and is now exporting to the Dutch auction in Amsterdam each morning and is employing 200 other women and men to work with her.
Richard, elle va pouvoir partager son expérience au sein de l'OMC, mais justement, quels sont les principaux défis qui attendent la nouvelle directrice générale de l'OMC qui s'est présentée comme la candidate de la réforme?
Les défis sont nombreux, Pierrick. Le premier sera de restaurer la légitimité de cette organisation pour mettre au point des règles respectées par tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Ça passe d'abord par le remplacement des juges qui sont partis à la fin de leur mandat afin de faire fonctionner son système judiciaire. Aujourd'hui, il est bancal. L'OMC ne peut pas jouer le rôle d'arbitre des conflits internationaux. Elle peut intervenir en première instance, mais la cour d'appel ne fonctionne plus. Le deuxième défi, et il est de taille, ça va être de parvenir à concilier les vues commerciales entre les États-Unis, qui est une économie de marché, et la Chine, qui est une économie d'État. Et entre les deux, il y a l'Union européenne. Donc, il va falloir concilier le capitalisme d'État avec un capitalisme de marché, et ça va pas être simple. Il y a même que c'est une quasi mission impossible. Il va y avoir des antagonismes entre les deux grands de ce monde, les États-Unis et la Chine. Le troisième défi, ça va être de revoir et d'adapter les règles commerciales au monde d'aujourd'hui. Les règles de l'OMC datent de 1995 pour la plupart. Il n'y a pas eu de réforme depuis, mais le monde a tellement changé en 25 ans, notamment en raison de la numérisation des entreprises, la numérisation de l'économie. C'est un chantier qui est titanesque. Il y a effectivement des négociations au sein de l'OMC. Alors, pas tout le monde, c'est un groupe de pays qui est en train de négocier sur le commerce électronique. Et Dieu sait si c'est difficile d'arriver à un accord sur ce sujet.
Et justement, vous parliez d'arriver à faire parler d'une même voix, ou en tout cas à faire communiquer mieux la Chine et les États-Unis. Qu'est-ce que l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche va changer pour le commerce mondial?
Ben, c'est vrai que tout le monde attend un revirement spectaculaire de la politique commerciale américaine. Je crois qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions sur ce plan. On a tendance à oublier ce qui s'est passé sous la présidence de Barack Obama, qui était lui aussi un démocrate. Joe Biden, comme Barack Obama, il sera très prudent et sans doute ferme sur les intérêts commerciaux des États-Unis. Le président américain, le nouveau en l'occurrence, il ne va pas tout défaire ce qu'a mis en place Donald Trump, surtout vis-à-vis de la Chine. Vis-à-vis de l'Union européenne, il faut rester prudent, il faut voir ce qui va se passer. Je crains que les Européens ne se montrent un peu trop optimistes sur le sujet. Joe Biden, il ne va pas éliminer toutes les taxes douanières sur les produits européens sans de solides contreparties au bénéfice des États-Unis. Je suis prêt à prendre les paris là-dessus, ça ne va pas être facile.
Merci Richard Hillot du Service international des échos pour cette rencontre avec la nouvelle directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, une négociatrice hors pair qui est parvenue à effacer une partie de la dette nigériane, et pour les discussions à venir entre les États-Unis et la Chine, elle pourra notamment leur expliquer le sens de ce proverbe de l'ethnie Igbo dégoté sur BBC Afrique.
It means that the eagle should perch on a little branch and then make space for the kite, and the one that refuses to let the other perch should have a broken wing.
Si l'aigle sur la branche ne veut pas faire de place pour le milan, alors il se cassera l'aile. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par l'aigle Willigan, chargé de production et d'édition le Milan Michel Varnet. On tient à trois sur la même branche pour vous proposer chaque jour le meilleur de la rédaction des Échos. Un podcast à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.